7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment rebondir sur ces échecs? Je reçois en direct probablement l'avocat de France qui a le plus redoublé. Bonjour Arash Doran-Barche.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Votre livre récit sort demain. Tomber 9 fois, se relever 10 aux éditions Cherche Midi. Vous étiez hier aux 20h sur France 2. Vous êtes arrivé d'Iran à l'âge de 4 ans. Vous avez connu 9 redoublements de la classe de 5e à votre diplôme d'avocat. Combien d'enseignants vous ont dit que les études, ce n'était pas pour vous? Est-ce que ça aussi, vous les avez compté?
C'est un parcours un peu chaotique que je vous raconterai. Alors, je suis né en France et je suis reparti 6 mois après ma naissance à Paris, à Téhéran, et je suis revenu en France à l'âge de 4 ans.
Alors, c'est pas banal de vous demander de faire la liste de vos échecs, mais c'est ce qu'on fera. Et puis, bien sûr, aussi la liste de vos engagements. Vous êtes passé entre-temps par la politique, UMP, LR, mais aussi des années de galère financière. Vous êtes aujourd'hui conseiller municipal à Courbevoie et à 39 ans, vous êtes 39 ans, c'est bien ça, j'ai bien calculé. Vous êtes aussi à l'origine de la loi contre le gaspillage alimentaire qui a inspiré plusieurs pays. Vous allez nous raconter votre incroyable parcours, mais bien sûr, on a aussi envie de vous entendre, d'entendre vos analyses sur le système éducatif en France, sur le débat national. Les voisins, si vous avez connu, quant à vous, de multiples ratages, racontez-nous comment vous êtes parvenu à dépasser ces barrières. Et bien sûr, vous pouvez aussi questionner Arash Doran-Barche sur les vertus de l'échec. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp et vous pouvez nous laisser des messages écrits. En fin d'émission, on fera le point sur l'augmentation des prix en France, conséquence de la loi sur l'agriculture, l'alimentation. Arash Doran-Barche, vous avez aussi un point de vue sur ce sujet. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Arash Doran-Barche, redoublé 9 fois. On se demande même si vous n'avez pas forcé le trait pour forcer notre admiration.
Non, j'ai même sous-estimé le nombre de redoublements puisque j'ai signé 3 fois la place de mes parents sans qu'ils le sachent. Ma mère a appris que j'ai signé à sa place en lisant le livre. Mais bon, il y a prescription. Mais je dois vous dire que tout au long de cette page que vous avez tournée, il y a beaucoup de larmes. Et je me prends beaucoup d'émotions quand je parle de ce problème parce que j'ai pris beaucoup sur moi.
On va la faire cette liste des 9 redoublements, puisque c'est le titre, le ton et le titre. Tomber 9 fois, se relever 10. L'école primaire, tout se passe bien, avec votre frère jumeau, vos parents qui vous aiment, qui prennent soin de vous. Arrivé d'Iran, donc vous êtes arrivé à 4 ans, même si vous aviez séjourné quelques mois, vous étiez né sur le territoire français avant que vos parents ne repartent puis ne reviennent. On est en pleine révolution iranienne. Premier redoublement, classe de 5e. En réalité, dès la classe de 6e, ça ne se passe pas bien. Vous signez à la place de vos parents pour dire non, nous refusons le redoublement et notre fils passera en classe de 5e. C'est vous qui signez à la place des parents. En 5e, le couperet tombe. Vous redoublez une première fois. Est-ce qu'on peut la faire, cette liste des redoublements?
Alors, je redouble à 5e. Je rate mon brevet des collèges au 3e, mais je passe. Ensuite, je redouble mon bac, donc ça fait 2 fois. Je redouble 3 fois le doc de droit. Je redouble 2 fois la licence et 2 fois le concours d'avocat, donc ça fait 9. Et donc en fait, c'est pour ça que je dis tomber 9 fois et se relever 10, puisque je deviens avocat en fait. J'ai prêté serment il y a 1 an. Mais c'est parce que j'avais un objectif. Et le sujet de l'échec, on en parlera sûrement, est un sujet tabou en France. On considère que l'échec dans la vie, pour les jeunes ou les moins jeunes, c'est une honte. Et que ce n'est pas bien de rater, ce n'est pas bien d'échouer, ce n'est pas bien de ne pas réussir. Et moi, je considère, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, de dire que peu importe votre objectif, peu importe le bonheur que vous voulez, il faut quand même se donner la peine parce qu'on n'a qu'une seule vie. Je rappelle un film qui m'a beaucoup touché, c'est le film À la recherche du bonheur. Will Smith, dans ce film, dit à un moment donné, il rate tout. Il n'a plus rien, sauf cette pièce de Jefferson. Et Jefferson avait proclamé la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Pourquoi ? Parce que la vie, en fait, se proclame, se protège et s'encadre. La liberté s'encadre aussi, mais le bonheur, non. Votre bonheur, Madame Bastide, n'est peut-être pas le mien, mais vous vous donnez la peine de faire la radio, moi, avocat. Et eh bien, tout n'est pas donné tout de suite. Il faut travailler dur, avoir une détermination et un acharnement pour y arriver.
Tout n'est pas donné tout de suite, c'est le moins qu'on puisse dire avec vous, neuf redoublements. Mais dans le fond, c'était quoi le problème ? Pourquoi vous avez échoué tant de fois dans le système éducatif français ?
Le système éducatif français n'est pas bienveillant. Ce n'est pas un système qui vous protège et qui vous amène vers votre bonheur. J'étais protégé, cajolé, jusqu'à la CM2, l'école primaire. Lorsque je suis arrivé à la 6e, c'est ce que j'explique dans le livre, je me retrouve en plein milieu d'un grand tout. Je ne suis plus l'élève d'une maîtresse ou d'un maître, mais je me retrouve avec 6 ou 7 professeurs. Donc je ne vois plus en fait cette affection ou cet amour platonique que j'avais avec des profs, des maîtresses ou des maîtres de l'école primaire. Mais je me retrouve entouré d'objectifs, de chiffres. C'est-à-dire il me faut impérativement avoir des bonnes notes. Et il n'y a plus cet objectif, on va dire, de progression. Et je n'avais plus la protection. Donc du coup, je me suis retrouvé isolé. Et je suis allé vers un chemin que n'a pas emprunté mon frère jumeau, qui lui avait un mental très fort, qui était capitaine de l'équipe de football, il était très fort physiquement, et il était très bon au cours puisqu'il révisait.
Et moi, qu'il révisait.
Oui,
parce
il révisait.
Que vous dites, vous ne travaillez pas.
Non,
je ne travaille pas. Alors c'est très paradoxal dans votre livre, parce que vous ne travaillez pas, vous dites que vous n'avez aucune méthode de travail, vous lisez beaucoup, vous êtes d'ailleurs bon en français, pas tout de suite, hein, mais
tout de suite.
En tout cas en première, pour le bac français, vous avez de bonnes notes en français. Oui. Mais vous ne travaillez pas et en même temps vous persévérez toujours. Il y a quelque chose de très paradoxal dans votre histoire et dans votre personnalité.
En réalité, ce sont ces 3 professeurs de français qui m'ont donné l'amour du français. Le préalable, c'est que lorsque j'ai grandi en France, j'ai appris la langue française, moi, grâce aux dessins animés, les Schtroumpfs, notamment. Mais ce sont vraiment les 3 professeurs de français de 4e, Monsieur Fèvre, en seconde, Madame Guillaume, et en première, Madame Bataille, qui m'ont donné l'amour de cette langue, qui est pour moi la plus belle langue du monde. J'ai appris les livres de Jules Vallès, Jacques Vintras dans L'Enfant. On m'a fait lire Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Je me suis élevé comme ça. Et si vous voulez, j'ai pris confiance en moi parce que ces professeurs-là m'ont dit que j'avais les compétences et les capacités. Et j'explique dans cet ouvrage qu'on se rappelle souvent en fait des compliments qui vous touchent profondément, mais on se rappelle surtout des critiques négatives. Je parle notamment de certains profs qui, devant mes parents, dans des réunions parents-professeurs, disaient que je n'avais pas les compétences. Mais j'ai voulu, dans ce livre, mettre en avant surtout les compliments pour dire que lorsque vous êtes bienveillant avec un enfant, cet enfant peut s'élever et s'émanciper.
On a eu le sentiment d'une grande confusion dans votre cerveau, en fait, pendant toute votre scolarité. Vous dites plusieurs fois très pudiquement, je n'avais aucune méthode de travail. Même d'ailleurs, quand vous préparez votre diplôme d'avocat, vous dites que vous avalez par cœur des livres. Alors certes, le droit est quelque chose où il y a beaucoup de par cœur, mais on a le sentiment que vous ne savez pas par quel bout prendre la vie d'une certaine manière.
Vous avez absolument raison. Je suis confus jusqu'à la dernière seconde. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas préparé, et on ne prépare pas d'ailleurs beaucoup d'élèves, à la façon de s'organiser pour réussir. C'est-à-dire qu'on vous fait écrire au début de l'année scolaire quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les métiers de vos parents. Et sur un bout de papier, on ne sait d'ailleurs jamais ce que deviennent ces bouts de papier, mais on ne vous dit pas comment y arriver. Et donc on vous laisse tout seul par rapport à ce rêve. Et arrivé à la date d'échéance des résultats, on amène les bulletins scolaires. D'abord, il y a ce scandale pour moi qui est la hiérarchisation des bons et des mauvais élèves.
C'est-à-dire que les bons, on a voulu vous orienter en bac professionnel.
Exactement.
Et vous vous dites, moi je veux devenir avocat, est-ce que je pourrais quand même devenir avocat?
Oui.
On vous rit au nez.
Mais
comme celui
Madame Bastide,
qui n'a même pas compris.
il y a quelque chose de beaucoup plus cynique, c'est que avant même qu'on m'annonce ce genre de résultat, on m'avait déjà classé, comme d'autres élèves, dans les mauvaises catégories, c'est-à-dire que la cour de récréation, vous savez, il y a la 5e 1, 5e 2, 5e 3, et plus vous allez dans les fins fonds des classes, plus vous êtes avec les mauvais élèves. Donc 5e 7, moi j'étais en 5e 7, on avait rassemblé les élèves qui étaient moyens ou mauvais. Ce qui était scandaleux de dire ça, parce que personne n'est mauvais par principe.
Et donc, vos origines étrangères,
oui,
étaient pour quelque chose ?
Non, vous savez, moi je ne parle jamais des religions et des origines parce que je considère, à raison d'ailleurs, que la France est le pays le plus généreux du monde et que ce pays, si vous vous en donnez la peine, la République vous tend la main. Je peux vous citer des innombrables personnalités qui ont réussi grâce à la France, grâce à la République. Abdelmalik, notamment l'artiste dont je cite une de ses citations au chapitre 5. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ce que je veux vous dire, c'est que les origines, en fait, c'est un plus pour la France. La France est bâtie avec les origines parce que nous avions tous une passerelle commune. C'est le communautarisme qui nous tue en réalité aujourd'hui. Et pour vos auditeurs, notamment en Afrique qui nous écoutent, j'étais au Congo-Brazzaville dernièrement, je suis allé à Johannesburg en Afrique du Sud aussi, on en reparlera. J'ai parlé avec des gens, d'un humanisme exceptionnel, et je leur dis toujours, croyez en vous. Si vous avez des objectifs, ne les lâchez pas parce que quelqu'un vous dit que vous n'avez pas les compétences. Ne croyez jamais les gens qui sont négatifs.
Vous avez toujours su que vous vouliez devenir avocat ?
Oui, depuis le début. Mais comme il n'y avait pas Google à l'époque, ce que j'explique dans le livre, parce que Google et Internet commencent à partir de 1996. Moi, en 96, je suis encore au lycée. Et donc, lorsqu'on m'amène le bulletin scolaire, comme vous avez très bien dit, et je pose naïvement la question, est-ce que malgré tout, en allant au BEP, bac professionnel, je peux devenir avocat ? C'est parce que je n'ai pas Internet pour taper, pour savoir comment je peux m'orienter. Donc, je me fie en fait aux propos et à l'affirmation de mon professeur principal. Et il me dit d'abord de signer et ensuite d'en parler. Donc moi, je lui dis non.
T'as accepté l'orientation
absolument.
En voie professionnelle.
Et je rentre à la maison, je me renseigne et je reviens le lendemain et je lui déchire la feuille. Et je lui dis, moi, je n'accepte pas ça. Et je crois que c'est vraiment cet acte pour moi qui a fait que je me suis persuadé que j'allais devenir un jour avocat.
Février 2018, prestation de serment à la Cour d'appel de Paris. Vous devenez avocat 19 ans après votre inscription en première année de droit. Alors comment rebondir après tant d'échecs, ou plutôt comment continuer de suivre la voie que vous vous étiez fixée alors que vous étiez jeune lycéen, sans voir la réalité des échecs, sans entendre ce que vous disent les professeurs, les voisins. Vous pouvez bien sûr nous appeler pour dialoguer avec Arash Doranbarche. Je vous redonne notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. On poursuit la conversation. Vous êtes l'auteur de « Tomber 9 fois, se relever 10 ».
Reproche à ta maman de ne pas ouvrir les bras quand je veux t'éblouir, qu'elle puisse te chérir plus grand. Perturbateur, tu vas errant, brisant les guerres, jamais content.
Non, 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 non.
Ce n'est pas ta faute. Yeah.
Princesse Erika, Serial Loser, voilà, c'est la chanson que Romain Dubrac a choisie pour vous, puisque vous publiez Arrache de Rambarche, aujourd'hui Avocat, vous publiez Tomber 9 fois, Se relever 10, Échec scolaire, Ne jamais lâcher, c'est publié aux éditions du Cherche Midi. À la lumière de votre parcours, qu'on va dire multi-cabossé, vous nous avez fait la liste de vos échecs. D'habitude, on fait la liste de ses succès hein, dans les médias. Mais évidemment, des succès, on va en parler, parce qu'il y en a, forcément. Quel regard vous portez véritablement sur le système éducatif français parce que vous dites je dois tout à la France, vous êtes arrivé d'Iran à l'âge de 4 ans de parents iraniens et en même temps l'école française ne vous a pas à proprement parler tendu la main.
Mais en réalité l'école française n'a pas à tendre la main puisque l'école française offre un panel en fait de possibilités pour s'émanciper. Mais il y a un point très important, c'est qu'il y a l'état d'esprit qui manque dans ce système. L'état d'esprit, c'est la bienveillance. Lorsque je suis allé à Malmö, le maire Kent Andersson m'a emmené dans une classe de CM2.
Attendez, là on est dans une ville en Suède.
En Suède, hein, absolument.
Qui est la ville qui a accueilli un nombre impressionnant de migrants.
C'est vrai.
Avec donc des classes de remise à niveau pour que les jeunes, les enfants puissent se réembarquer dans le système scolaire suédois.
C'est une remarque très juste que vous dites. Il y avait des migrants dans cette classe et le cours durait 60 minutes, donc une heure. L'appel pour 20 élèves, tenez-vous bien, a duré 20 minutes. 20 minutes, une minute par élève et le professeur faisait lever l'élève et le complimentait, le valorisait pendant une minute. Magnus, bravo, ce que tu as fait, c'est très bien, ton oral a progressé, tu as progressé à l'écrit, voilà. Ici, c'est pas du tout comme ça. Lorsque vous avez 15 sur 20, Madame Bastide, on vous dit, peut mieux faire, pavardage, pas assez bon. Mais non. Un élève, il a besoin d'être poussé, d'être élevé, d'être valorisé. Pourquoi ? Parce que moi, je le vois en tant qu'avocat, depuis que je pratique depuis un an, j'ai des affaires qui sont assez lourdes, parce que je suis pénaliste. Des gens qui sont incriminés dans des affaires très lourdes. Et lorsqu'on s'aperçoit dans les tests psychiatriques, psychologiques, et dans les études assez poussées, on s'aperçoit que ces mises en cause, ces gens, ont été déstabilisés dans leur enfance. On les a dévalorisés. Lorsque vous dévalorisez un enfant, cet enfant ne tire pas le meilleur de lui-même. Il faut donner de la bienveillance. L'amour platonique et l'affection, c'est pas un tabou. C'est pas quelque chose qui doit être repoussé. Et on a l'impression en France, dans notre pays, que donner de l'affection et de l'amour à un enfant, c'est un peu vivre dans le monde des bisounours. C'est pas ça du tout. C'est encadrer avec chaleur un enfant pour l'élever. Pour que cet enfant puisse faire rejaillir ce qu'il y a de mieux en lui, c'est-à-dire la valorisation et la bienveillance. Moi, je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ne font que critiquer et dévaloriser les autres. Mais le matin...
Pas qu'en France, hein.
Bien sûr.
La haine sur les réseaux sociaux, c'est partout.
Bien sûr, mais parce que c'est de l'émotion. Mais il faut faire changer cet état d'esprit. Il faut valoriser les gens.
La valorisation de l'échec, c'est quelque chose d'assez répandu dans les pays anglo-saxons. Oui. Je dirais même que c'est devenu presque un produit marketing. Plus on a franchi de barrières, plus on devient une personne intéressante. Alors vous êtes ultra bankable, hein, pour l'Amérique.
Je ne sais pas si je suis bankable, mais je considère en fait que c'est la phrase que j'écris. J'obtiens mon diplôme d'avocat le 8 décembre 2017. Je ne poste sur Facebook mon diplôme que le 22 décembre, parce que pendant 15 jours, j'ai besoin de l'ingurgiter. C'est un tsunami émotionnel pour moi. Ça fait 19 ans, 20 ans que j'entends ce moment. Et je mets une phrase importante sur mon Facebook et sur mes réseaux sociaux. Je mets « Croyez en vous ». Parce que l'échec est une étape essentielle, fondamentale, pour arriver à votre bonheur. Moi, je considère vraiment que ceux qui n'ont jamais touché l'échec, qui n'ont jamais été dans l'échec ne peuvent pas comprendre ce que c'est que la satisfaction d'obtenir une réussite.
Vous en avez fait un produit de valorisation personnelle, dans le fond. Hein,
bien sûr.
Pour publier un livre là-dessus.
Alors, c'est l'éloge de l'échec, ce livre.
Il y a beaucoup de citations que vous avez choisies sur l'échec. Et c'est fou ce qu'il y a à l'heure actuelle de citations ultra, ultra populaires sur l'échec. Oui. Celle de Mandela aussi, d'ailleurs, que vous n'avez pas choisie, me semble-t-il. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Ça, c'est Nelson Mandela. Vous citez Sénèque, ce n'est pas parce que les choses nous semblent inaccessibles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent inaccessibles.
C'est l'audace.
Écrit Sénèque dans l'Antiquité romaine. Alors, il faut quand même dire, 19 ans entre le moment où vous entrez à l'université de droit et le moment où vous en sortez avec votre diplôme d'avocat, vous devenez avocat, c'est aussi, pas seulement parce que vous avez beaucoup redoublé, même si vous avez beaucoup redoublé, on va le redire, hein, le DEUG en plusieurs années, la licence en plusieurs années, échec au centre de formation des avocats, mais vous êtes tombé dans le chaudron de la politique. Un milieu élitiste, de bons élèves, mais aussi un milieu de boxeurs. On prend des coups tout le temps. C'est ça qui vous a séduit, c'est le milieu de boxeurs.
C'est surtout l'objectif de faire changer les choses. J'ai un mandat, moi, de conseiller municipal qui n'a aucune conséquence. J'ai pas de pouvoir, en fait. Clairement, je ne gagne pas d'argent parce que c'est du bénévolat. J'ai pas d'avantages ni de subventions. Mais je me suis dit, comme l'année scolaire, en fait, l'équivalent de l'année scolaire en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 100 000 euros, même si l'école est gratuite quasiment en France, mais c'est quand même, le coût est de 100 000 euros.
Pour l'État.
Pour l'État. Moi, je vais rembourser ma dette à l'égard de l'État. Donc, je considère que je dois aujourd'hui, avec mes 9 redoublements et mes 19 années, à peu près 1 million d'euros. Donc, du
là,
coup...
Vous avez travaillé à vie, là,
En fait, en 5 ans de mandat, j'ai célébré des mariages. Je me suis investi, on en parlera peut-être, sur le gaspillage alimentaire pour que des gens mangent dans ce pays. Voilà, j'essaie de m'investir et de renvoyer l'ascenseur. C'est exactement ce dont vous avez parlé, la culture anglo-saxonne. N'attendez pas ce que l'État peut faire pour vous. Vous, organisez-vous pour voir ce que vous pouvez faire pour le pays.
Bon, on comprend mieux pourquoi vous avez été élu municipal de 2014 à Courbevoie, sous l'étiquette divers droite. Hein, vous adhérez parfaitement à cette philosophie de droite. Des galères financières, vous en avez connues, vous les avez beaucoup mises en avant d'ailleurs, au moment de la loi contre le gaspillage alimentaire. En même temps, vous n'avez pas les boulots les plus à plaindre. Hein, vous avez travaillé dans l'édition, vous avez été assistant parlementaire, même si les assistants parlementaires, les assistants de députés à votre époque, en tout cas, gagné très mal leur vie par rapport au nombre d'heures qu'ils étaient obligés d'effectuer. Ça veut dire que vous terminez dans le rouge, que votre compte en banque est vide pendant pas mal de temps pendant votre cursus, parce que vos parents aussi sont repartis en Iran une fois que vous avez votre bac, en se disant à tort que vous êtes sorti d'affaires.
D'abord, la première chose, c'est lorsque j'ai obtenu mon bac avec mon frère jumeau, on a renvoyé maman vers papa. On voulait s'émanciper, on voulait tracer notre route. Donc mon frère est parti aux États-Unis à Los Angeles, et moi à l'âge de 19 ans, je prends mon studio de 22 mètres carrés à Courbevoie. J'ai fait tous ces boulots dont vous avez cité, éditeur, assistant parlementaire, j'ai travaillé dans les cabinets ministériels, très mal payé tout ça, parce que c'était souvent parfois des vacations, mais je considérais que j'investissais sur l'avenir. J'apprenais. Et ça, c'est la plus grande des valeurs. Et je savais que mon heure viendrait, tôt ou tard. Mais la plus grande des richesses, c'est d'abord de comprendre et d'apprendre. Et c'est vrai que le 10 de chaque mois, je me retrouvais avec un compte en banque dans le rouge. J'ai eu, pendant moins de 19 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire, en fait, avoir un compte en banque de plus de 1000 euros sur mon compte. Depuis que je suis avocat, ça va un peu mieux. Mais avant, pendant 19 ans, je ne connaissais pas la satisfaction de pouvoir dépenser sans me dire est-ce que ma carte va être refusée ou pas. C'est ce que j'explique un jour quand je vais au McDonald's pour manger et que ma carte est refusée. C'est cette frustration-là.
C'est aussi pour ça que vous avez peu de temps à consacrer à vos études, notamment.
Oui,
les redoublements peuvent aussi s'expliquer par certaines galères financières.
Bien sûr, parce que quand vous êtes dans le stress, et je pense que des millions de personnes qui sont en France, qui peut-être écoutent certainement cette émission, comprennent ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une période difficile, les huissiers de justice vous envoient des recommandés, vous êtes dans des situations où vous êtes potentiellement expulsable. J'explique d'ailleurs dans mon livre que c'est un ami avocat qui, par une vice de procédure, me fait éviter d'être sans domicile fixe et de me faire expulser. Je ne dis rien à ma famille. Parce que c'est vrai que lorsque j'ai parlé de la loi sur le gaspillage alimentaire, que j'ai dit que j'avais eu faim, ma famille, mes proches m'ont dit « Mais comment est-ce possible? Tu nous as rien dit ?» Mais bien sûr, parce que hormis le sujet de l'échec, l'autre tabou, c'est la faim.
Et vous ne parlez pas des redoublements. Vous dites que vous êtes à la fac et que tout va bien.
Exactement, je ne dis rien.
Arrache de rembarche, vous signez tomber 9 fois, se relever 10, vous avez redoublé 9 fois, vous êtes aujourd'hui avocat et vous pouvez bien sûr nous appeler pour réagir ou dialoguer avec Arrache de rembarche. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin qui nous appelle en direct. Servin nous appelle de Brazzaville au Congo Brazza. Bonjour Servin.
Bonjour Emmanuel, bonjour à l'invité.
Bonjour.
Servin, vous avez 25 ans, vous êtes chauffeur de taxi. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Oui, j'ai fait mon parcours primaire normal, au collège normal, mais le lycée c'est là où ça m'a compliqué. J'ai passé aussi passé en seconde normal, en premier aussi normal, mais c'est la terminale. J'ai fait 5 fois le bac A4. Et ma vocation, c'était de devenir un officier supérieur de la gendarmerie après le bac.
Mais un officier supérieur de quoi?
De la gendarmerie, hein, ouais. C'est ma vocation.
D'accord.
Et après le bac.
Vous avez raté 5 fois le bac. Vous l'avez eu à la 6e ou pas?
Non, je n'ai pas toujours le bac. Mais c'est un petit peu plus de dossier, mais ça m'a découragé. Je ne vais pas faire ça. Je pourrais demander des conseils à l'invité s'il fait.
Vous avez eu un parcours scolaire normal, vous n'aviez pas redoublé auparavant, hein, jusqu'au baccalauréat, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez raté 5 fois le bac? Alors il faut quand même bien préciser que dans le pays où vous vivez, sur une bonne partie du continent, les taux de réussite au baccalauréat, je ne connais pas le taux au Congo-Brazzaville, mais c'est souvent autour de 30%, en tout cas c'est largement en dessous de 50%, contrairement à la France où on est 80. À des taux de 80% de réussite, y compris à votre époque, Arrache. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi vous l'avez raté, Servin?
Bon, Emmanuel, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, parce que l'année passée, j'ai présenté la dernière fois, l'ami qui était à côté de moi, je lui ai montré la philosophie, le français et l'histoire du mot. La personne a dit, mais moi, j'ai raté. On avait fait pratiquement la même chose. Bon, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ce qui ne va pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne suis pas idiot pour rater tant de fois, mais...
Vous dites je suis pas idiot, c'est une question forcément qu'on vous renvoyait à vous, Arrache de rembarche, qui avait
Servin
redoublé. Oui, Servin est en ligne, vous pouvez lui parler bien sûr.
Bonjour.
Et mes amitiés à tous nos amis de Congo Brazzaville et au marché Mbaka. où j'ai acheté pas mal de choses là-bas, j'adore les gens au Brazza.
Arrache, vous avez raté le bac une fois, mais en tout vous avez redoublé 9 fois, en comptant les redoublements aussi à l'université. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Servin?
Servin, vous avez un objectif, ne lâchez pas. Ne laissez jamais les gens vous dire que vous n'y arriverez pas et utilisez toutes les possibilités pour atteindre votre objectif. Et je vous donne juste un conseil, si vous ne pouvez pas réussir à Brazza, allez à Pointe-Noire. Voyagez, bougez. Il faut que vous voyez les choses avec un angle de 360 degrés. Vous avez un pays fantastique, le pays a besoin de vous. Moi, j'ai vu à Pointe-Noire des choses fantastiques. J'y étais d'ailleurs pour la fête nationale. Et vraiment, c'est une énergie extraordinaire que vous avez dans votre pays. Extraordinaire. Le pays, c'est en train de se construire. Le pays a besoin de gens comme vous. Allez-y et foncez et n'écoutez pas ceux qui critiquent. Vous allez y arriver.
Les
critiques vous font mal, bah oui.
N'écoutez pas les critiques et surtout ne dites pas que les gens vous disent que vous êtes un idiot. Moi je vais vous dire un truc, c'est une chance pour vous d'avoir raté. C'est une chance pour vous d'avoir raté. Parce que maintenant, vous savez ce que c'est que l'échec, vous allez réussir et ensuite vous direz à vos enfants ce qu'il ne faut pas faire pour réussir d'ailleurs.
D'accord.
Merci à vous, Servin, de nous avoir appelé de Brazzaville. Alors, on a beaucoup parlé de vos échecs, Arrache de rembarche. On va parler des réussites. Vous êtes avocat. Vous êtes tombé dans le chaudron de la politique. Vous avez été élu conseiller municipal en 2014 à Courbevoie. Le gaspillage alimentaire est devenu votre combat. Pourquoi?
Moi, j'utilise les méthodes des arts martiaux. C'est-à-dire que je positive mon énergie. Je ne vais pas systématiquement relayer des informations négatives. Il y avait un problème dans ce pays, dans notre pays, mais dans le monde aussi. C'est qu'il y avait en France, lorsqu'on a fait le constat en 2014, plus de 50 kilos de nourriture consommable qui était jetée chaque soir dans les poubelles. En face de cela, 10 à 15 millions de personnes ne mangeaient pas ou alors n'avaient plus d'argent sur leur compte en banque. Il a fallu régler ce problème. Une loi a été votée le 3 février 2016. Donc vous voyez, on revient encore au février. Donc il y a 3 ans pile. Et cette loi a eu une réussite assez extraordinaire puisque 10 millions de repas sont distribués chaque année. C'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire aux associations. Et dernièrement, j'ai laissé donc pendant 3 ans les associations et les supermarchés s'organiser. Et comme les supermarchés, pour la plupart, certains en tout cas ne jouent pas le jeu, eh ben nous avons fait ce qu'on appelle une opération coup de poing. On est allé à Mimizan, donc dans les Landes, il y a 2 jours. Et on a assigné le supermarché Leclerc qui continue à jeter de la nourriture et de javeliser ça dans la poubelle. Et c'est pas possible, on ne peut plus tolérer ça.
Parce qu'évidemment, quand on javelise 50 kilos de nourriture, elle ne peut plus être donnée aux Absolument. Associations comme le prévoit la loi. Hein, la loi dont vous êtes en partie à l'origine, votée en février 2016, elle interdit aux grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés de jeter de la nourriture et de rendre les invendus impropres à la consommation. Là aussi, quand on revoit votre parcours, vos 9 redoublements, on se dit quand même, à chaque fois, là, vous cherchez quand même les problèmes, parce que s'occuper du gaspillage alimentaire quand on est dans un parti de droite, c'est pas une évidence. Vous vous êtes mis à dos toute la grande distribution. C'est pas un classique quand on est dans un parti de droite.
C'est vrai. Après, je me dirige vers des convictions. Je suis pas un mouton de panurge. Je n'ai jamais écouté en fait ce que me dit l'un ou l'autre pour des raisons idéologiques. Mais je considère que lorsque vous faites de la politique, c'est d'abord pour l'intérêt général, systématiquement. C'est pour ça que j'ai refusé d'ailleurs d'être rémunéré ou d'avoir des avantages dans mon mandat. Je considère que c'est une implication et qu'il y a un temps pour la politique et après je me retournerai vers mes activités personnelles, professionnelles.
Les associations anti-gaspillage, ceci dit, vous ont beaucoup taxé d'être mégalo, de jouer votre carrière politique, d'utiliser la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ça n'a pas duré longtemps, puisque cette loi leur sert. Et je peux vous dire une chose, c'est que la pétition que je mène est soutenue quand même par la Croix-Rouge française, Action contre la faim, ou le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. J'ai derrière moi des centaines d'associations. Vous savez, la plainte que j'ai diligentée il y a 2 jours à Mimizan, c'est par le biais de dizaines d'associations. Non, je suis soutenu. Après, qu'il y ait des querelles de chapelle, c'est pas mon problème.
Alors jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de condamnation depuis le vote de la loi.
Mais non, mais c'est la première plainte. Pourquoi ? Parce que pendant 3 ans, on réglait les choses à l'amiable, mais on n'a plus le temps.
Voilà. Vous prévoyez d'autres plaintes, d'autres constatations 300, par huissier.
J'ai 300 plaintes sur ma table. Je lance un appel à monsieur Michel-Édouard Leclerc et à tous les autres responsables de supermarché. Si cette loi n'est pas appliquée dans le mois qui arrive, je vais déposer 300 plaintes avec mon confrère maître Thierry Valla. On n'a plus le temps de discuter. Les gens sont dans des difficultés financières. On le voit avec les gilets jaunes. Il y a une forte revendication de la hausse du pouvoir d'achat. Je lance également un appel à monsieur le président de la République, qui était contre cette loi quand il était ministre de l'économie. Je l'ai vu régulièrement depuis qu'il est président. Et je lui rappelle que cette loi, il faut qu'il l'incarne et qu'il l'applique. C'est le président, il est garant de l'intérêt général.
Pourquoi les supermarchés veulent contourner la loi ? Quel est leur intérêt ?
D'abord, les supermarchés, c'est quand même un fort lobby qui déteste en fait se faire dicter la loi par un jeune conseiller municipal comme moi. Ils estiment que je ne suis rien. Ils m'ont bien fait comprendre il y a 3-4 ans. Je leur avais dit que j'allais revenir avec une loi, ils ne m'avaient pas pris au sérieux. La loi est là et on va la faire appliquer.
Avec une amende, 3 750 euros d'amende. Hein,
si mais ils avaient aussi des avantages fiscaux. C'est que le système qui avait été mis en place valorisait le fait de jeter la nourriture. Mais en France, mais partout dans le monde. À Brazzaville, lorsque j'y étais, à Johannesburg, mais partout, au Mexique et partout en Europe. C'est la victoire des citoyens. C'est la société civile qui a permis en fait de renverser la donne.
Mais c'est quoi l'intérêt financier ? Il faut nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu-là, c'est quoi l'intérêt financier d'un supermarché de jeter de la nourriture plutôt que de la donner aux associations ? À l'heure de la responsabilité sociétale des entreprises, où les entreprises ont absolument besoin, les grands groupes, de redorer leur image. Quel est l'intérêt ?
Alors, on a une chaîne alimentaire, on va faire très simplement. Vous avez 4 points sur cette chaîne alimentaire. La production, les agriculteurs donc. Le deuxième point, c'est la transformation, 3e point là, distribution, et le 4e point, la consommation. La grande distribution, qui possède 80% de tout le système agroalimentaire, écrase les agriculteurs et achète les produits à bas prix. Donc du coup, les agriculteurs vendent au supermarché en perdant de l'argent. Lorsque la tomate est achetée par un supermarché à 50 cents, le supermarché double le prix à 1 euro. Et lorsque le supermarché a écoulé les stocks, mais qu'il reste encore des tomates par exemple, ces tomates étaient jetées dans les poubelles et le supermarché gagnait de l'argent en jetant la nourriture via la TVA au prix fort.
Elle récupérait la TVA auprès de l'État.
Auprès de l'État.
Elle se faisait rembourser la
Absolument.
TVA sur le prix de revente.
Absolument.
Et donc nous, c'était on a fait de l'argent qui rentrait dans
c'est
les
caisses. C'est de l'argent en fait qui était gagné cyniquement en jetant de la nourriture. Nous, on a dit ça suffit. La loi a été votée. Maintenant, il n'y a plus de discussion. Soit les supermarchés donnent, soit ils rendent impropre la nourriture et ils sont condamnés à 3 750 euros.
Plus d'incitation fiscale maintenant si on donne à des associations ?
Alors, il y a des incitations, mais moi je dis la chose suivante. Tout ça, ce sont des usines à gaz, Madame Bastide. La réalité, c'est que la loi, elle est très claire. La loi du 11 février 2016, si un citoyen crée sa propre association, vient réclamer les invendus alimentaires à un supermarché, ce supermarché est obligé de donner. Sinon, c'est 3 750 euros. C'est clair, net et précis. J'invite tous les citoyens à créer leur propre association. Et si les supermarchés refusent, qu'il me sollicite en tant qu'avocat, on portera plainte.
Comment vous expliquez que la colère des Gilets jaunes soit surtout mobilisée contre les acteurs politiques dont vous faites partie ? On a vu des mobilisations de Gilets jaunes à des ronds-points, à côté des centres commerciaux, sans jamais beaucoup dénoncer les pratiques de la grande distribution et de la société de consommation en général d'ailleurs.
Les Gilets jaunes...
Ça vous a surpris vous ou pas ?
Pas du tout. Les Gilets jaunes, c'est le symptôme de l'échec politique. Lorsque vous ne faites pas votre travail pour l'intérêt général, les citoyens se rebellent. À un moment donné, il faut comprendre ce que c'est que la politique. Le monde aujourd'hui va très mal. On le voit dans la mondialisation, les extrêmes augmentent. Qui aurait pu prévoir la victoire de l'extrême droite au Brésil, aux États-Unis, en Belgique, il n'y a même pas de gouvernement. On a parlé des pays scandinaves, l'extrême droite est à 20%, l'Allemagne est à 15%, tout l'extrême est de l'Europe. Il y a une émergence extraordinaire de l'extrême droite. Il n'y a pas de raison que la France soit mise de côté. Si nous ne faisons pas le boulot, Madame Bastide, c'est l'extrême droite qui va gagner.
Quel rapport avec le fait que les Gilets jaunes aient finalement bien cohabité avec la grande distribution, avec les supermarchés, qui était ma question initiale ?
Non, il n'y a pas de cohabitation. La réalité, c'est que la grande distribution écrasait pendant longtemps les citoyens et les associations parce qu'ils avaient un monopole depuis les années 60. Il faut rabattre
les cartes. Qui ne s'en révolte pas.
Ils se révoltent, mais ils n'ont pas la voix pour. Maintenant, il y a des élus comme moi et d'autres qui le disent.
Vous restez avec nous, Arash de Rambarche. Dans quelques instants, justement, on va faire le point sur une autre loi, la loi agriculture et alimentation qui entre en application là, ce mois-ci, et sur la guerre des prix avec Olivier Andreau, qui est chargé de mission alimentation à l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC Que Choisir. On y revient juste après Harmony Hall. We took a vow in summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone c'est Vampire Weekend à Harmony Hall chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI en compagnie d'Arash de Rambarche qui publie Tomber 9 fois, se relever 10. Aujourd'hui avocat après 9 redoublements entre le collège et le diplôme d'avocat. Votre cheval de bataille aujourd'hui en tant qu'élu municipal à Courbevoie, c'était la loi anti-gaspillage que vous, maintenant, vous êtes prêt à tout pour la faire appliquer, la loi anti-gaspillage dans les hypermarchés. On va faire maintenant un point sur les conséquences de la loi alimentation, agriculture alimentation d'octobre dernier qui entre là en application ce mois-ci et sur la guerre des prix qu'elle engendre. Bonjour Olivier Andreau.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission alimentation à l'Union fédérale des consommateurs, hein, c'est l'UFC Que choisir. Quel est l'enjeu de cette loi agriculture et alimentation qui est la suite logique des états généraux qu'on a eu de l'alimentation où il y a eu des centaines d'heures de débats? C'était quoi l'enjeu et à l'arrivée, on a quoi? Quel point positif et quel problème?
Alors, très bonne question. Parlons tout d'abord des enjeux qui avaient été lancés à l'occasion des états généraux de l'alimentation. C'était pas moins que finalement réformer complètement nos modes de production agricole et puis notre alimentation, puisque des dizaines, des centaines de représentants de toute la société civile, bien évidemment des producteurs agricoles, des transformateurs, de la distribution, les ONG, mais aussi les administrations, les chercheurs, etc., étaient conviés pour formuler des propositions sur des sujets aussi importants et vitaux que la nutrition. C'est quand même ça, le gros problème de notre alimentation, c'est d'abord la problématique nutritionnelle. On mange trop gras, trop salé, trop sucré, d'autant plus qu'on mange essentiellement des produits de l'industrie transformée. Et puis il y avait aussi le marketing, comment protéger nos chères têtes blondes du marketing parfois assez irresponsable qui promeut des produits qui sont particulièrement déséquilibrés pour ces jeunes consommateurs. Et puis il y avait aussi les aspects sanitaires, comment faire pour que on soit beaucoup plus sûr de toutes les molécules de synthèse qui sont autorisées chaque année selon une procédure européenne qui est très incomplète. Vous savez actuellement qu'il n'y a pas d'obligation formelle de vérifier que les molécules de synthèse soient ou pas des perturbateurs endocriniens. De la même manière, on ne vérifie pas s'il n'y aurait pas par hasard des effets de cocktail entre toutes ces molécules chimiques qui entourent notre organisme. Voilà.
Donc, enfin et surtout, améliorer le revenu des agriculteurs, des producteurs, ceux qui proviennent.
J'y arrive absolument. Il y avait, j'insiste là-dessus, parmi d'autres sujets, il y avait évidemment le revenu agricole. Et c'est dans la conduite des débats qui étaient consacrés spécifiquement au revenu agricole, où là, on a senti que, à la différence des autres groupes de travail, les dés étaient un peu pipés. Parce que, dès le départ, ce qui a été proposé comme solution majeure, c'était, eh bien, de relever le seuil de revente à perte. Et on va revenir là-dessus. Parce que, finalement, il n'y a pas eu de véritable débat. Il n'y a eu, dans le cadre des états généraux de l'alimentation, aucune modélisation officielle de l'impact de ce relèvement du seuil de revente à perte, à la fois sur le revenu agricole ou sur l'impact inflationniste sur le consommateur. La décision a été prise, finalement, dans un groupe de travail dans lesquels les professionnels concernés étaient ultra majoritaires.
Juste prenons un exemple. Donc, la loi prévoit d'interdire de revendre à perte des produits transformés de grande consommation. C'est-à-dire que jusque-là, ces produits étaient revendus à perte. C'était le cas pour la...
Non. Alors, très rapidement, le seuil de revente à perte, c'est une notion qui existe depuis longtemps et qui interdit, comme son nom l'indique, de revendre à perte. C'est-à-dire que si vous avez un distributeur, que ce soit le Leclerc, Carrefour, Auchan, qui achète 1 euro, par exemple, une pâte à tartiner, eh bien, il n'a pas le droit de la revendre moins de 1 euro, que ce serait une sorte de dumping, ça serait déloyal pour les autres enseignes concurrentes. C'était normal. Donc, il est obligé de le vendre 1 euro plus la TVA. Mais maintenant, l'idée, c'est de le vendre au minimum 1,10 €, c'est-à-dire 10% plus cher, plus la TVA.
Et donc, ça veut dire que jusqu'à maintenant, les distributeurs revendaient, si peut-être un peu à perte, mais en tout cas au prix coûtant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marge, il n'y avait pas de bénéfice sur ces grands produits locomotives de la consommation.
Exactement. Et pourquoi? Parce que c'est précisément sur ces produits-là que s'exerce le plus ce qu'on appelle la guerre des prix. La guerre des prix, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est attirer le chaland dans son enseigne avec les produits qui sont les plus susceptibles de faire tilt dans l'esprit du consommateur.
Boissons gazeuses, pâte à tartiner, yaourt.
Exactement, mais toujours de grandes marques, c'est ça qui est important. Et donc, c'est une des premières raisons pour lesquelles nous, on doute fortement que ce relèvement du seuil de vente à perte, ça ait un impact pour le revenu agricole. Vous allez comprendre tout de suite. Parce que si vous preniez des fruits et des légumes, eh bien, il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié du prix qui est payé par le consommateur qui est composé par le prix agricole de ce fruit ou de ce légume. Et donc, là, il y aurait une proportion importante de l'argent qui serait revenu dans les poches des agriculteurs.
Dans un yaourt, il y a du lait quand même.
Il y a du lait, mais pas que. Regardez, prenez une pâte à tartiner ou prenez un soda. Les coûts agricoles sont finalement assez faibles au regard des coûts de transformation, hein, les coûts industriels, les coûts de transport, les coûts d'emballage, les coûts de marketing, qui représentent une part importante de ce prix. On paye beaucoup de marketing quand on achète un soda de grande marque ou une pâte à tartiner. Et donc, du coup, la part de la matière première agricole qui va revenir dans la poche des agriculteurs sera finalement assez faible au regard de tous ces autres coûts.
Y compris pour les producteurs de lait, pas grand-chose de plus dans leur poche, même si on relève le seuil de revente à perte des yaourts.
Exactement. D'autant plus, et ça c'est la deuxième raison pour laquelle on est très dubitatif vis-à-vis de cette mesure, c'est qu'il n'y a aucune obligation dans la loi pour que cet argent supplémentaire qui sera prélevé dans la poche des consommateurs, il n'y a qu'une obligation que la grande distribution le reverse à l'industrie ou à l'amont agricole. Étant donné que on voit bien leur pratique de tarification sur le long terme, on voit par exemple que lorsque le prix agricole du lait ou de la viande baisse, cette baisse n'est pas répercutée la plupart du temps en rayon consommateur. Cette baisse, finalement, elle est captée par la grande distribution notamment qui va augmenter ses marges.
Mot, Olivier Andraud, en quoi ça va pénaliser les consommateurs les plus modestes? Parce que vous, c'est ce que vous dites à l'UFC Que Choisir, alors que ces produits-là, de toute façon, ils sont vendus partout, dans toutes les villes, dans tous les territoires.
Effectivement. Mais là où finalement ces produits... Enfin, qu'est-ce qui va être concerné par ce rayon de seuil à perte? C'est là, c'est les produits qui sont actuellement ou qui étaient actuellement vendus à une marge quasi nulle. Donc c'est pas tous les magasins de centre-ville ou de périphérie immédiate, tout simplement parce que les prix du foncier, les coûts fixes sont tellement élevés qu'il y avait déjà un niveau de marge qui est supérieur à 10%. En revanche, là où il y avait le niveau de prix le plus bas, c'est dans les magasins qui sont à la périphérie des villes, et notamment ces très grandes surfaces, ces hyper, là où précisément vont faire leurs courses les magasins, les consommateurs.
C'est là que les prix vont augmenter selon vos prévisions.
Absolument.
Et c'est déjà là que ça a commencé.
Et nous l'avons chiffré, puisque l'impact inflationniste, nous l'estimons de l'ordre de 900 millions d'euros sur 2 ans. C'est quand même assez considérable, sachant que d'autres
900
estimations...
millions d'euros sur le panier de la ménagère.
Absolument, 900 millions d'euros en plus, 900 millions d'euros de surcoût. Et sachant que d'autres estimations, notamment une estimation gouvernementale, faisait que la fourchette haute pouvait monter jusqu'à 5 milliards d'euros. Donc vous voyez que l'impact inflationniste, il est certain et il est immédiat, puisque de par la loi, depuis vendredi, il est obligatoire de remonter de 10% la marge brute de ces produits.
Arash de Rambarche, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette loi agriculture-alimentation?
D'abord, je salue M. Andraud et UFC Que Choisir.
Bonjour.
Qui font un travail formidable. Après, je voudrais dire les choses, on ne va pas tourner autour du pot. Moi, j'ai refusé d'être dans cette commission d'égalité alimentaire. C'est une entourloupe, il faut que les Français le sachent. On est dans la duperie. Les lobbies de l'agroalimentaire ont mis la main sur cette commission. Et c'est quand même scandaleux de faire payer aux consommateurs la hausse de ce que les supermarchés gagnent. Moi, je me permets juste de nuancer ce que dit M. Andraud. Il n'y a pas de guerre de prix pour une raison très simple, c'est que la grande distribution gagne déjà beaucoup en marge sur les agriculteurs. Les seuls, je dis bien les seuls aujourd'hui, dindons de la farce, sont les agriculteurs qui, eux, continueront à perdre de l'argent et le consommateur qui continuera à manger des produits infestés de pesticides. Les quantités de nourriture sont toujours là. Et la qualité des produits seront toujours contestables. Tant que vous ne mettez pas de contraintes comme nous l'avons fait pour la loi sur le gaspillage alimentaire, ça ne marchera pas. Et pourquoi ça ne marchera pas? Pourquoi? Parce que les lobbies de l'agroalimentaire ont la main sur cette loi alimentaire.
Affaire à suivre en tout cas. Merci à vous Olivier Andraud d'avoir été en ligne avec nous de l'UFC Que Choisir. Merci pour vos explications très claires. Merci à vous Arash de Rambarche. Vous publiez Tomber 9 fois, se relever 10 aux éditions du Cherche Midi. Échec scolaire, ne jamais lâcher. Mais on parle aussi beaucoup de la loi agriculture-alimentation et surtout de la loi anti-gaspillage dont vous êtes à l'origine.